Bonsoir. Quel plaisir de vous trouver ce soir ou vous retrouver pour ceux d'entre vous qui ont participé à la première journée du colloque, La nostalgie au cinéma, organisée par le Centre de recherche Trois Lames à l'Université d'Angers, où nous travaillons entre américanistes du Sud et du Nord, hispanistes, germanistes et spécialistes de la littérature française et de la littérature comparée sur diverses problématiques interdisciplinaires telles que les liens entre texte et image. Impulsé par notre collègue Jacques Soyer, ce colloque a réuni de nombreux chercheurs de différents domaines culturels et linguistiques, de même que des doctorants intéressés par cette thématique qui, comme le film de Woody Allen, Minuit à Paris, que nous allons voir ce soir, nous invite à explorer les nombreux films, et pas seulement, non seulement nord-américains, bien sûr, qui, depuis le début de l'histoire du cinéma, nous proposent des retours toujours plus ou moins douloureux dans le passé, selon les racines étymologiques du mot nostalgie, formé des mots grecs nostos, retour, et algie, douleur, évoquant ainsi littéralement un mal du retour. Si notre choix de projection s'est porté sur Midnight in Paris, Minuit à Paris, c'est qu'il s'agit d'un film qui, pour citer Svetlana Boym, chercheuse russe installée aux États-Unis, auteure d'un ouvrage intitulé The Future of Nostalgia, le futur de la nostalgie, met en évidence la dualité de la nostalgie contemporaine qui non seulement cherche à restaurer, reconstruire un objet, personne ou lieu perdu, mais s'avère également capable de réfléchir sur les motivations et les modalités de cet intense désir, de cet intense désir de reconstruction. Selon Boym, la nostalgie serait une expression profane d'un désir spirituel, une sorte de lamentation vis-à-vis de l'impossible retour à un monde enchanté. Et tout cela s'avère particulièrement intéressant par rapport à la manière dont le cinéma étranger, surtout nord-américain, n'a cessé de réimaginer et à cogiter sur la capitale française à travers ses nombreux films réalisés par Ernst Lubitsch, John Huston, George Cukor, Minelli et bien, bien d'autres. Au point de générer une sorte de sous-genre que certains chercheurs américains appellent Paris Nostalgia Films, films nostalgiques sur Paris, ou tout simplement Paris Films, films sur Paris. C'est le nombre même de ces films états-uniens, plus de 800 au total, qui font de Paris la ville le plus souvent représentée dans le cinéma américain, pose problème, pourrait-on dire. Il serait difficile par ailleurs d'ignorer comment ce lieu nommé Paris y est réalisé et esthétisé comme un espace souvent onirique ou magique, toujours bien davantage qu'un simple espace géographique. Plus de 60 ans après les films à succès qui célèbrent Paris, ses cafés, ses bistrots, ses grands boulevards, ses ponts et monuments historiques, on ne peut oublier non plus que ce grand lieu de mémoire et d'histoire occidentale a également été abordé et transformé en texte par de nombreux auteurs expatriés, dont la génération dite perdue, The Lost Generation. Omniprésente dans le film de Woody Allen, qui nous fait rencontrer Scott Fitzgerald et Ernest Hemingway, ou encore l'écrivaine et critique d'art Gertrude Stein, à qui nous devons l'expression génération perdue. Auteur pour qui Paris était bien plus qu'une image ou idée fixe, car un intense lieu de création. Une véritable fête mouvante, Movable Feast, comme le souligne le titre de l'ouvrage de Hemingway sur son Paris à lui des années 20, traduit en français par Paris est une fête, qui imprègne le film que nous allons voir et qui, rappelons-le, connut un remarquable comeback dans les librairies parisiennes après les attaques terroristes d'il y a un an, après le 11 novembre. Un peu comme si les lecteurs qui se sont précipités pour lire ou relire Paris est une fête voulaient ainsi s'assurer, vérifier que Paris, ce Paris-là, n'avait pas disparu, mais continuait à exister et à rayonner avec sa créativité, son inventivité et sa joie et son désir de vivre. Sans oublier, bien sûr, son ouverture vers l'étranger, comme l'ont si souvent souligné, non sans une certaine nostalgie, avant et après Josephine Baker, présente elle aussi dans Midnight in Paris, les expatriés américains du Nord comme du Sud. Pays à part, donc, cet espace-temps nostalgique, univers artistique qui fut naguère, et qui coïncide avec l'émergence du modernisme. recréé par Woody Allen, il nous incite à imaginer ce qui aurait pu être une rencontre avec quelques-uns des grands artistes tels que les peintres Picasso et Dali et le grand cinéaste espagnol Luis Buñuel. Tout se passe en effet comme si, à l'instar du cinéma américain de l'après-guerre, Woody Allen retournait en Europe pour vérifier si Paris, à l'inverse de plusieurs autres grandes villes européennes détruites pendant la guerre, était toujours en place, intacte, à la fois comme une ville-texte, ville-image, mais aussi comme ville-son. C'est en tout cas sur un lieu féerique, mais également explicitement touristique, où se croisent et s'hybrident maintes expériences humaines, que s'ouvre Midnight in Paris, qui, au lieu de nous faire entendre le son d'accordéon, nous envahit dès la première note par la musique du clarinettiste américain Sidney Bechet, l'un des nombreux artistes expatriés qui ont fini leur vie en France. C'est seulement après ce long prologue musical que le film donne la parole à un homme du Nouveau Monde, curieusement nostalgique du vieux continent et surtout de son emblématique ville de Paris. Il se poursuit ensuite en élargissant le monologue du type Woody Allen, en cherchant cette fois-ci le dialogue avec auteurs et artistes disparus, tout en renouant avec les Paris Films, connus tels que An American in Paris, un Américain à Paris, réalisé en 1951 par l'Italo américain Vincente Minnelli, film sorti au cours d'une décennie qui vit un véritable déferlement de films américains sur Paris. Car c'est à Minnelli que l'on doit l'archétype même de l'Américain à Paris, un personnage qui, au lieu de se contenter de ce qu'offre le Nouveau Monde, préfère un modeste appartement sous les toits de Paris. D'où s'ouvre pourtant une vision de la ville qui reste étonnamment villageoise, célébrer finalement donc cette ville pour sa rusticité, autant que pour sa beauté, pour la beauté de ses ponts et ses places publiques. Un peu comme si Paris était l'unique ville au monde qui avait réussi à marier le rural et l'urbain, la pétanque et les bagnoles. Conte pour adultes oblige, dans Minuit à Paris, c'est un homme Cendrillon qui prédomine en poussant vers l'arrière-plan du film L'homme plus mélancolique et plus comique, déjà moult fois rencontré sous d'autres traits chez Woody Allen. En même temps, ce film, comme par exemple Tout le monde dit I love you, du même réalisateur, ne cesse de retravailler les clichés et autres lieux communs sur Paris, de manière à en faire la matière même de sa fiction filmique. Tout cela prouve que le lien viscéral entre Paris et le héros, ou l'anti-héros alénien, qui oscille entre New York et la capitale française, n'est pas prêt à rompre. Tout au contraire, et bien que ce nouveau Paris film commence par raconter un énième échec amoureux, il fait de Paris non plus un décor, mais le vrai objet d'amour du personnage principal, un scénariste californien interprété par Owen Wilson, qui rêve d'écrire un chef-d'œuvre au contact de Paris et de son passé artistique. Et comme le souligne le titre « Minuit à Paris », le film reprend effectivement le fil des contes pour poursuivre le tissage d'un dense réseau de liens autour de Paris. Liens littéraires, mais également interfilmiques. À travers ces effets cartes postales et expériences déjà lues et déjà vues, prononcé délibérément à l'américaine, car contrairement à la figure de professeur de film qui ne cesse d'étaler ses connaissances chiffrées sur Paris et Versailles, le héros de Allen ne s'impose jamais comme un spécialiste de l'histoire ni de la culture française, préférant au contraire proposer un voyage personnel et intime dans le passé, non pas dans une, mais des belles époques qu'a connu Paris. Bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon voyage dans ce Paris de jadis qu'il nous est possible de retrouver, certes avec douleur, de la douleur, propre à la nostalgie, mais aussi avec de l'humour, après les 12 coups de minuit qui sonnent l'entrée dans la magie du cinéma de Woody Allen.